janvier 1978. 14e leçon de catéchisme pour adultes par Monsieur l'abbé Montarien en la chapelle polonaise, rue Saint-Honoré à Paris.
Je vous parlerai aujourd'hui de la composition des évangiles. Tout à l'heure aux enfants, j'ai parlé de ces quatre évangiles qui nous font connaître l'évangile. Ces quatre petits livres qui nous font connaître la bonne nouvelle. Comment ont-ils été écrits ? Par qui ont-ils été écrits ? Pour qui ont-ils été écrits ? Nous nous reportons aux premières décades qui ont suivi la Pentecôte. Les apôtres ont fait un certain nombre d'adeptes et avant de les baptiser, ils leur ont fait un catéchisme rapide, très rapide. C'est ce qu'on appelait le kérigme. Une bonne nouvelle éclaire. Ils enseignaient l'essentiel, ils enseignaient le salut, ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité, et avec ce minimum, avec ce maigre bagage, pas si maigre finalement, il s'agissait des vérités nécessaires au salut dont je parlais tout à l'heure. Avec ce maigre bagage, eh bien, ils envoyaient dans le monde leurs nouveaux chrétiens. On n'appelait pas encore des chrétiens. C'est le kérigme, cela. Bien entendu, ensuite, on leur donnait un petit complément. Un petit complément. C'est ce qu'on appelait la catéchèse. Le mot est redevenu à la mode. Dans mon enfance, j'ai appris le catéchisme. Actuellement, on enseigne aux gens la catéchèse. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. La catéchèse primitive, c'était un catéchisme. Après le baptême, on donnait aux gens un complément méthodique. Vint un temps où les apôtres se trouvèrent débordés et où on éprouva le besoin de mettre par écrit un certain nombre de ses enseignements, et en particulier ce qu'on savait du Christ, de sa vie, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait dit. Ce fut d'abord un enseignement oral. Les gens savaient cela par cœur. La mémoire jouait un grand rôle à l'époque. La mémoire était plus développée qu'elle ne l'est actuellement. Tout simplement parce que l'écriture l'était moins. Même si on savait écrire, on n'écrivait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de papier. Il n'y avait même pas du tout. Alors, on écoutait et on retenait. Ainsi, dans tout le pourtour de la Méditerranée, commencèrent à circuler je n'ose pas appeler cela des textes, parce qu'un texte, en principe, c'est écrit, enfin, de petits ensembles fixes. Et puis, on les coucha par écrit. On se les communiquait d'une église à l'autre. Et finalement, quelqu'un se mêla de les mettre bout à bout, ces fragments. J'ai résumé la manière de façon un peu rapide, mais vous voyez à peu près, n'est-ce pas ? La mémoire joue un grand rôle, de petits textes, de petits recueils, des recueils de paroles, des recueils de miracles, voyez-vous. Et puis, un beau jour, quelqu'un qui met cela en ordre. Je dis quelqu'un parce que, à partir de ce moment, cela se complique, tout au moins pour nous, parce que c'est tout de même bien vieux. Nous savons que saint Matthieu a composé un évangile en araméen que nous ne possédons pas, que nous ne possédons plus, qui est perdu. Ce fut le premier évangile écrit, un évangile en langue araméenne, la langue que parlait notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y eut Marc, et puis Matthieu grec et Saint-Luc. Et puis beaucoup plus tard, il y eut Saint-Jean. Alors essayons, mais très rapidement, parce que je ne saurais moi-même vous donner le détail, d'ailleurs les exégètes ne sont pas d'accord, essayons de voir comment ça s'est passé pour ce qui est des synoptiques. Je vous dirai tout à l'heure ce que sont les synoptiques et pourquoi on les appelle comme ça. Il y a donc ce Matthieu araméen qui est perdu. Marc intervient un peu après. Il se sert pour composer son évangile apparemment de Matthieu araméen. Et puis ensuite, je simplifie, hein. De toute façon je ne peux pas faire autrement parce que je m'y perdrai. Ensuite, il y a Matthieu grec et Luc qui se servent pour composer leurs évangiles respectifs du Matthieu araméen et de Marc. Autrement dit, ces gens-là ont copié les uns sur les autres. Non pas pour avoir une bonne note, mais simplement parce que ça les aidait. Non pas parce qu'ils ignoraient ce qu'ils avaient à dire, mais parce que cela leur était plus facile. Alors pour les spécialistes, eh bien, il y a des rapports entre les trois premiers évangiles que j'ai appelés il y a un instant synoptiques. Pourquoi les appelle-t-on synoptiques ? Précisément parce qu'ils ont copié les uns sur les autres. Et parce que, en gros, ils nous rapportent les mêmes événements. Si bien qu'on peut les mettre sur trois colonnes, en déplaçant un peu certains passages, sur trois colonnes parallèles, qu'on peut embrasser d'un seul regard, c'est le sens du mot synopse. Un tableau synoptique, c'est un tableau qu'on peut embrasser d'un seul regard. Donc les trois premiers évangiles, nous pouvons les établir, nous pouvons les présenter sur trois colonnes. Il existe d'ailleurs des livres qui s'appellent des synopses, qui sont plus ou moins savantes selon qu'elles s'adressent à des savants ou à des gens qui ne le sont pas. Il existe des livres qui nous présentent les évangiles, les trois premiers évangiles, comme ça, sur trois colonnes, qu'on peut comparer. C'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la question précisément, parce que on compare les textes, la façon de dire de tel et de tel autre. C'est très différent, nous en parlerons tout à l'heure, parce que chacun a son tempérament. Nous pouvons aussi constater que tel évangéliste ne rapporte pas ce fait, mais qu'en revanche, il en rapporte un autre que les deux autres ne rapportent pas. On peut se demander pourquoi. Et la réponse est parfois assez évidente, quand on les connaît. Donc ça, ce sont les trois synoptiques. Les trois synoptiques ont été composés avant l'an 70, disons entre 60 et 70. Si vous dites autour de 63, vous êtes assez proche de la réalité. Comment peut-on savoir cela ? Là encore, je vous donnerai une réponse rapide parce que je ne suis pas très spécialiste, mais c'est la lecture, c'est d'abord la tradition. Non pas la tradition avec un grand T, non pas l'Église, mais la tradition orale, ce que l'on sait, les vieux témoignages, n'est-ce pas, qui nous le dit. Qui nous dit que ces évangiles ont été composés assez tôt après la Pentecôte. Et puis, c'est ce qu'on appelle la critique interne. Si vous lisez attentivement ces évangiles, ces synoptiques, si vous connaissez un peu l'histoire, vous devez pouvoir vous rendre compte qu'ils ont été composés, par exemple, avant la ruine de Jérusalem. Parce qu'ils en parlent comme d'un événement qui n'est pas encore survenu. Quand ils rapportent le discours de notre Seigneur Jésus-Christ sur la ruine de Jérusalem, ils le rapportent comme un discours qui concerne pour eux-mêmes l'avenir, quelque chose qui n'est pas encore survenu. Il y a d'autres signes, je vous donne celui-là, mais enfin, il y en a d'autres. Je serais bien embarrassé de vous les donner d'ailleurs parce que je les ai oubliés. Enfin, il y en a d'autres. Disons donc avant 70, ce sont les synoptiques. Et puis beaucoup plus tard, le quatrième évangile. Le quatrième évangile, qui est de Saint Jean, j'étais sur le point de dire qu'on a attribué à Saint Jean, mais qui est de Saint Jean, je vais vous en parler tout à l'heure si j'ai le temps. Le quatrième évangile fut composé beaucoup plus tard, autour de l'an 100. C'est-à-dire quelques 35 ans, 30 ou 35 ans, après les synoptiques. Vous allez me dire, Saint Jean devait être très vieux. Eh bien, il l'était. Il était très très vieux. Quand nous nous représentons Saint Jean, nous nous le représentons sous les traits d'un jeune homme. C'est tout simplement parce que nous avons arrêté l'histoire. Il a vécu très vieux. Et c'était un homme très âgé qui écrivait le quatrième évangile. Bon, ça, ce sont des généralités. Nous allons prendre chacun de ces évangiles, l'un après l'autre, et puis nous allons voir. Il y a tout d'abord le premier, qui est Saint Matthieu. Saint Matthieu, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait composé un premier texte en araméen, texte perdu. Le deuxième, qui est en grec, a été composé beaucoup plus tard par le même, probablement, mais ce n'est pas, semble-t-il, c'est même certain, une traduction du premier. C'est un remaniement. Je vous ai dit qu'il s'était servi de Saint-Marc pour compléter sa première mouture. N'est-ce pas? Je viens de vous dire que le texte qui nous est parvenu est un texte grec, ce qui m'amène à vous dire, pour le cas où vous ne le sauriez pas, que les évangiles ont été écrits en grec. Les quatre évangiles que nous possédons ont été écrits en grec. Tous les textes du Nouveau Testament, d'ailleurs, ont été composés dans cette langue. C'était la langue la plus parlée dans l'Empire romain. Vous pourriez croire que c'est le latin qu'on parlait de préférence. Non, c'était le grec. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Orient était plus peuplé, je crois, que l'Occident. Ensuite parce que l'Occident se trouvait dans l'état où se trouve Paris actuellement. Il était envahi par des gens d'ailleurs. Si bien qu'à Rome ou à Lyon, par exemple, il y avait des quantités de gens qui ne parlaient que le grec. De savoir deux ou trois mots de latin, comme les gens que j'ai vus dans le métro tout à l'heure savent deux ou trois mots de français. De quoi se faire comprendre pour les choses très utiles. Les gens bien parlaient grec à Rome ou à Lyon, parce que cela faisait chic. Et puis aussi les esclaves, tout simplement parce qu'on les avait fait venir de là-bas. C'est pourquoi Saint Paul, quand il écrit aux Romains, leur écrit en grec. Les premiers chrétiens se recrutaient surtout parmi les pauvres et aussi, dès le début, parmi les gens très chics. Entre les deux, mon cœur ne balance pas, mais entre les deux, il faudra attendre quelque temps. Donc ils ont été composés dans ce grec populaire qu'on appelait la koiné. Saint Matthieu donc. Saint Matthieu, c'est un juif. Quand vous lisez un évangile, vous avez intérêt à savoir qui est l'auteur et pour qui il écrit, ne serait-ce que pour mieux le comprendre. Saint Matthieu, c'est un juif et il écrit pour des juifs. Si bien que son évangile en portera la marque. Si vous prenez un texte une édition bien faite, vous verrez que les citations de l'Ancien Testament sont imprimées en italique. Eh bien, l'évangile de Saint Matthieu est rempli d'italique. Saint Matthieu sans cesse fait appel à l'écriture, parce qu'il veut non pas prouver à ses lecteurs qui sont déjà chrétiens, ce sont des chrétiens issus du judaïsme, mais parce qu'il veut, il ne veut pas prouver cela, mais il veut les conforter dans leur foi. Alors c'est sans cesse dans Saint Matthieu, vous avez pu le remarquer, sans peut-être savoir que c'était Saint Matthieu qu'on vous citait à la messe, c'est sans cesse dans Saint Matthieu qu'on a des choses de ce genre. C'était pour que se réalisât cette parole de l'Écriture, deux points, voyez-vous, « J'ai ramené mon fils d'Égypte ». C'était pour que se réalisât cette parole de l'Écriture, une voix s'est faite entendre dans Rama, c'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas être consolée. Et à propos de cette dernière citation, je vous dirais que qu'elle sent le juif à plein nez aussi. Parce que les juifs se servaient de l'Ancien Testament, de la Sainte Écriture, disons, parce que pour eux, c'était pas encore l'Ancien Testament. Ils s'en servaient un petit peu à tort et à travers, pour le plaisir de s'en servir. Même quand cela ne prouvait pas grand-chose. Et Saint Matthieu agit de cette façon-là. Cette citation que je viens de vous donner, elle concerne le massacre des innocents. Or, ces innocents, ce sont des enfants de Bethléem et des environs, c'est-à-dire des enfants de la tribu de Juda. La Rachel dont il est question était une des femmes de Jacob, mais Juda n'était pas un fils de Rachel. Autrement dit, la citation ne colle pas. Mais ça, c'est Saint Matthieu. Saint Matthieu, c'est un juif. Il écrit pour des juifs, ça ne les choquait pas non plus, pas plus que lui, voyez-vous. C'est comme cela qu'on procédait. Saint Matthieu, vous le reconnaissez comme un juif dès le début de son évangile. Il introduit son évangile par une généalogie, la généalogie du Christ. Des généalogies, vous en avez plein l'Ancien Testament. C'est parfaitement rébarbatif. Ça devait les intéresser, eux. N'est-ce pas ? Elle est d'ailleurs curieuse, cette généalogie, parce qu'elle est fausse. Mais l'auteur le savait aussi bien que ses lecteurs, d'ailleurs. Elle est composée de 3 séries de 14 noms. Et on sent bien que Saint Matthieu voulait qu'il y ait 3 séries de 14 noms, simplement parce que 14, c'est 2 fois 7. 7, c'est le chiffre parfait. 3 aussi. 2 fois 7, c'est 2 fois la perfection. 3 fois 2 fois 7, c'est la perfection au point qu'on n'en finit pas. Il voulait nous faire comprendre que ce Jésus qu'il annonce, c'est la perfection de l'histoire, c'est le centre. Alors pour que cela fasse 3 fois 2 fois 7, eh bien, il a fait quelques entorses. Dans la 2e série, il a supprimé un roi. On passe du grand-père au petit-fils. Et puis dans la 3e série, il dédouble un type. Il est à la fois le fils de son père et le père de soi-même. Le plan de Saint Matthieu. Saint Matthieu compose pas mal. C'est un des bons parmi les évangélistes. Enfin, je parle du côté littéraire de la question. Il a disposé son évangile sous forme de 5 discours, 5 grands discours. Suivi chacun d'une série de miracles. Le tout précédé d'une introduction et se terminant par une conclusion. L'introduction, ce sont les récits de l'enfance. La conclusion, c'est la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et alors, entre cette introduction et cette conclusion, les 5 discours. Le premier de ces discours, vous êtes le plus connu, c'est le sermon sur la montagne. Ce qui vous laisse entendre que ces sermons sont un peu artificiels. Tout ce que Jésus dit dans ses sermons a bien été dit par Jésus, mais pas forcément en 5 discours. Imaginez-vous notre Seigneur Jésus-Christ faisant pendant, au cours de 3 années, 5 discours, et entre les discours, faisant la sieste. N'est-ce pas ? Non. Ce sont des paroles que Saint Matthieu a groupées comme cela, de façon un petit peu logique, si vous voulez, sous forme de 5 discours. C'est donc un juif qui écrit pour des juifs. Je n'insiste pas trop sur Saint Matthieu, je ne sais pas pourquoi, je sais que c'est d'une certaine manière le meilleur. C'est le plus cité par la liturgie, ça a toujours été le plus cité par la liturgie. Et je sais que c'est beau, il écrit bien, mais il me plaît moins que certains autres, que je vous signalerai tout à l'heure. Saint Matthieu. Vous savez que Saint Matthieu était un des apôtres, c'est donc un témoin oculaire. Ce n'est pas le cas de tous. Saint Luc ne fut pas un témoin oculaire. Saint Marc, je ne sais. Je vais vous en parler maintenant de Saint Marc. Alors Saint Marc, c'est aussi un juif. Nous le connaissons bien, Saint Marc. C'est aussi un juif, et il écrit non pas pour des juifs, mais pour... Enfin, il y a pas mal de juifs dans le temps quand même. Il écrit pour les chrétiens de Rome. En principe, ce sont des gens qui ont totalement oublié leur judaïsme. Totalement, c'est pas vrai. Je dis des choses pour simplifier comme cela, et puis ensuite je m'aperçois que j'ai dit des bêtises. Enfin, il écrit pour les chrétiens de Rome. Il y avait des chrétiens issus du judaïsme, d'autres, moins nombreux je crois, issus du paganisme. Alors Saint Marc, nous le connaissons par le livre des Actes, et aussi par Saint Paul, dans ses épîtres. Saint Marc était originaire de Jérusalem. Sa maman joue une grosse importance dans les débuts de son activité. On se réunissait chez elle. Saint Marc fit partie de la première expédition apostolique qui comprenait aussi Saint Barnabé et Saint Paul. Saint Marc, qu'on appelle aussi Jean-Marc, il a un nom juif, Jean, et puis un nom gréco-latin, Marcos ou Marcus, n'est-ce pas ? C'était le cousin de Barnabé, ce Jean-Marc. Et ils se sont disputés en arrivant en Asie mineure, non pas Barnabé et Jean-Marc, mais Barnabé et Marc d'un côté et Paul de l'autre. Paul ne devait pas être très facile tous les jours, vous savez. Et alors, après cette discussion, Marc retourna chez sa maman. Pendant un certain temps, la brouille se maintint, et puis on s'aperçoit par les épîtres que plus tard, tout fut effacé. Peut-être parce qu'on se voyait moins. Saint Marc s'était mis à la remorque de Saint Pierre, et il le suivit à Rome. Saint Marc n'a aucune instruction. Aucune instruction, et c'est son côté sympathique, parce qu'il raconte les choses comme les gens qui ne sont pas instruits. Vous savez, hein, quand on est instruit comme je le suis, pour être intéressant, il faut s'appliquer. Mais les gens qui ne sont pas instruits, qui vous racontent une histoire, eh bien, c'est plein de détails, c'est plein de détails parfaitement inutiles d'ailleurs, mais qui donnent de la couleur au récit, qui le rendent vivant. Quand les chrétiens de Rome se rendirent compte que Saint-Pierre prenait de l'âge, ils demandèrent à Marc de coucher par écrit les enseignements du premier pape. Et c'est ainsi que nous avons eu le second évangile. Autrement dit, ce second évangile, celui de Saint Marc, on ne saurait trop dire s'il est de Saint Marc ou de Saint Pierre. Autrement dit, tout ce que je vous dirai de Saint Marc, c'est peut-être de Saint Pierre qu'il faut le dire. Quand je vous dis de Saint Marc qu'il n'est pas instruit et qu'il parle mal, bon, c'est Saint Marc quand même, parce que nous avons des deux épîtres de Saint Pierre qui sont tout de même différentes. Quant au style et à la présentation. Donc Saint Marc y a mis sa patte, si vous voulez. Saint Marc donc était de Jérusalem et peut-être a-t-il connu le Christ. Dans son évangile, au moment de la scène de Gethsémani, il y a un petit événement qui est sans intérêt et qu'il est le seul à nous rapporter. On a pensé qu'il parlait de lui-même. On nous dit qu'au moment où les soldats se saisirent de Jésus, il y avait là, parmi les spectateurs, un jeune homme qui était vêtu seulement d'un drap. Il avait été attiré par le bruit, et il s'était enveloppé d'un drap pour venir. Et au moment où saisissait Jésus, on aperçut ce type, on le soupçonna d'être de connivence avec notre Seigneur. On saisit le drap. Mais le jeune homme, laissant aux mains des méchants le drap, s'enfuit tout nu. Il est le seul à raconter cette histoire-là. On a pensé que c'était lui. Il était de Jérusalem. Donc peut-être a-t-il connu notre Seigneur. En tout cas, s'il n'a pas connu notre Seigneur, il a connu Saint-Pierre et a écouté ses enseignements. Vous avez le bonhomme, vous avez l'auditoire, maintenant ce sont les Romains. Présentation de l'Évangile. Si vous lisez Saint Marc, vous aurez l'impression que notre Seigneur n'a fait pendant sa vie publique qu'un voyage. Il est parti un beau jour de Galilée, et puis au bout de 2 ou 3 ans, il est arrivé à Jérusalem. Ce qui est tout de même beaucoup. Beaucoup de temps pour une petite distance. C'est grand comme la Bretagne, la Palestine. Pas très très grand. Tous les faits et tous les dires de notre Seigneur sont rapportés au cours de ce voyage qui est un plan, finalement, un plan simple, trouvé par quelqu'un de simple pour des gens qui l'estimaient simple. C'est artificiel comme le plan de Saint Matthieu. Un long voyage, si vous voulez, avec des événements et puis des récits. Je vous ai parlé de son style tout à l'heure. Son style est très imagé, très intéressant. Je vous ai parlé des détails inutiles. L'exemple que je prends toujours, c'est sur le même que je prends, parce que c'est très très frappant, c'est l'histoire de la tempête apaisée. Si vous avez une synopse, vous regardez d'un côté le texte de Saint Matthieu, et puis ensuite le texte de Saint Marc. Alors Saint Matthieu vous explique que Jésus et les apôtres montèrent dans une barque, s'éloignèrent du rivage, une tempête se leva, terrible, les apôtres effrayés dirent à Jésus, mais Jésus, qu'allons-nous devenir? Et Jésus apaisa la tempête. Bon, il nous dit l'essentiel. Saint Marc nous dit à peu près ceci. Le soir venu, tiens, on apprend que c'est le soir. Saint Matthieu ne nous en soufflait pas mot. Le soir venu, ils se dirigèrent vers la barque et s'approchent sur le champ de Jésus et ils l'y poussèrent tel qu'il était. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Moi, je veux dire ce que j'en pense. Notre Seigneur a dû dire, écoutez, laissez-moi un petit peu de temps pour mettre un peu d'ordre dans ma tenue ou pour changer de vêtements. Et les autres lui disent, non, allez. Ils l'ont poussé dans la barque. Et saint Marc ajoute, et il y avait deux autres barques avec eux. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Puisqu'ensuite, il ne sera plus question de ces deux autres barques-là. Il a encore la scène dans le regard, si vous voulez, n'est-ce pas? Alors, voilà parti. Et voici que Jésus dormait à l'arrière sur le coussin. Ça aussi, c'est Saint-Marc. Le coussin, c'est un détail qui lui est resté dans l'œil, à moins que ce ne soit resté dans l'œil de Saint-Pierre, si vous voulez. Alors, nous pourrions continuer comme cela, mais c'est le même style, d'un bout à l'autre. Voilà Saint-Marc. Quelqu'un de finalement très sympathique et de très précieux parce qu'il nous donne de l'Évangile une idée très, très concrète. Ce sont vraiment des choses qui se sont passées. Ce sont des choses qu'on n'invente pas. Si j'invente quelque chose, je n'irai pas chercher des détails de ce genre qui sont parfaitement inutiles, à moins que je ne les ai dans la mémoire et dans le regard. Mais si je les ai dans la mémoire et dans le regard, c'est que je n'invente pas, c'est que c'est vrai. Je m'aperçois que je suis très bavard. Je vais vous parler de Saint-Luc un petit peu. Je vais commencer, puis je suppose que je continuerai la prochaine fois. Alors Saint-Luc maintenant. Il faudrait que je revienne quand même sur Saint-Matthieu, parce que j'oubliais quelque chose. C'est Saint-Luc qui m'y fait penser. Je vous ai parlé à propos de Saint-Matthieu de l'introduction. Et je vous dis cette introduction était composée par les récits de l'enfance. Or, comment Saint-Matthieu a-t-il connu ces détails? Vous m'avez entendu dire déjà dans un sermon que Saint-Matthieu se place du point de vue de Saint-Joseph. Les hommes, en apparence, sont les seuls à l'intéresser. On ne parle pas des dames, c'est un juif, n'est-ce pas? Les dames, on les aime bien, mais on n'en parle pas. Et c'est le point de vue de Saint-Joseph. Il est probable que Saint-Matthieu a fréquenté ceux qu'on appelait les frères de Jésus, ceux que l'Évangile appelle les frères de Jésus. C'est le milieu chrétien primitif, le milieu juif primitif, n'est-ce pas, juif converti. Et il y avait parmi eux beaucoup de parents du Seigneur. C'est dans cette parenté du Seigneur qu'il a dû avoir tous ces détails, ces gens-là qui étaient de Nazareth et des environs, et qui avaient connu Saint-Joseph. Que ces frères du Seigneur se soient trouvés converti assez tôt, nous en avons la preuve par ailleurs. Je crois que c'est l'empereur Claude. L'empereur Claude, on entendit parler une fois de plus, parce que c'était très souvent, de ce Messie que les Juifs attendaient. Et il se dit, c'est peut-être... ce pourrait être une occasion de trouble, voyons un peu. Il fit rechercher tous les descendants de David, qui vivaient encore, c'est un petit peu après la Pentecôte, là. Alors on ramassa... en Palestine, tout ce qui pouvait rester de descendants de David, c'était les fameux frères du Seigneur. On les amena à Rome, et quand il les eut vus une petite fois, Claude fut rassuré. Ils étaient tous chrétiens d'ailleurs, et c'était de pauvres gens. Ils ne pouvaient pas constituer un danger. Il les renvoya. Ce leur fut seulement l'occasion d'un voyage. Alors j'en reviens à Saint-Luc, c'est les récits de l'enfance de Saint-Luc qui m'ont rapporté qui m'ont ramené vers Saint-Matthieu. Alors Saint-Luc, lui, n'est pas un apôtre. Autrement dit, ce qu'il nous raconte, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas entendu. Il nous dit d'ailleurs comment il le sait. Il nous dit qu'il a interrogé de nombreux témoins. C'est un grec d'Antioche. Et il écrit pour des chrétiens issus de la gentilité, pour des chrétiens issus du judaïsme, issus du paganisme. Autrement dit, avec lui, nous serons dans une toute autre atmosphère. Disons tout de suite, avant de terminer, puisque c'est une demi-heure, que son style est magnifique. Enfin, magnifique, oui, ça tire vers le beau. C'était un homme instruit. Saint Paul l'appelle le cher médecin. C'est un médecin. Le médecin a toujours été très instruit. C'était un homme instruit, et c'est le grec. Et nous en resterons là, nous verrons la suite la prochaine fois.